Quelle est votre approche? Êtes-vous de votre nouvelle brochure?
Alors, l'approche et le but de cette nouvelle brochure, nous avons voulu chercher à identifier, en se plaçant du côté des employeurs, quels sont les obstacles à l'embauche des personnes issues de l'asile. Des obstacles qui sont vraiment tout d'abord des obstacles de questionnement basique sur est-ce que j'ai le droit d'embaucher une personne, est-ce que c'est compliqué, parce que c'est vrai que quand on est dans un processus de recrutement, les employeurs, parfois, ils se disent, ah ben si c'est trop compliqué, moi j'ai envie de quelque chose de simple. Est-ce que la personne va rester durablement en Suisse? Parce que c'est vrai que si on investit dans un recrutement, c'est compliqué, etc. De savoir si la personne,
Le
on l'engage
contrat.
pour le contrat va rester, durer 6 mois, puis après il va s'arrêter parce que la personne va partir. Tout simplement parce que certains permis de séjour, comme le permis F, est un permis annuel, a priori. Donc beaucoup
Elle
de
doit aller.
questions se posent sur est-ce que c'est un permis durable ou pas. Effectivement, ce permis, il est très durable. Il est même plus durable que d'autres permis B, qui vont peut-être avoir une échéance également annuelle, mais qui, pour X ou Y raison, peut se terminer. Donc toutes ces questions qui sont des questions purement administratives et légales, que de connaissances de base que les employeurs ont ou n'ont pas forcément. Et ça peut être les premiers obstacles du recrutement. Les deuxièmes, et là c'est on entre dans un champ un peu plus sensible et puis où il y a beaucoup de subjectivité, de représentation qui se pose sur l'image qu'a le réfugié ou qu'a la personne issue de l'asile au niveau de la société et que peut avoir aussi l'employeur, qui porte plutôt sur les compétences, les qualifications des personnes, des représentations biaisées quant les femmes travaillent dans leur pays d'origine ou pas, si elles vont privilégier la famille plutôt que le travail, si les personnes vont pouvoir s'adapter à nos codes culturels, etc. Toutes ces questions qui sont porteuses d'un certain nombre d'idées reçues, voire de préjugés qui sont portés sur les personnes issues de l'asile, on a essayé de répondre à ces questions. Et pour revenir à l'approche, en essayant que les personnes soient amenées à s'interroger sur leurs propres idées reçues, en jouant un petit peu avec l'humour et avec le quiz, en fait, en posant des questions-réponses et puis en essayant d'apporter par des réponses factuelles, voilà, de montrer qu'en fait, on a nos propres idées reçues. Tout le monde a des idées reçues, hein. Nous, on a tous des mêmes. Je veux dire, il y a personne qui n'a pas de préjugés ou d'idées reçues sur l'autre. Et là, c'est plutôt de questionner sans forcément porter de jugement sur les personnes qui recrutent, parce qu'elles sont dans la société, elles baignent dans toutes ces représentations qu'on a. Et du coup, l'idée, c'est plutôt d'essayer de les amener à se questionner et du coup de faire un tout petit peu bouger les choses à ce niveau-là. Et dernier point qui nous a semblé important dans cette approche, c'est la question des trous dans le CV, parce que c'est vrai que les personnes qui ont un parcours d'exil vont avoir des années un peu de lacunes, de trous,
D'expérience.
auxquels ils ne vont pas penser à valoriser, hein, des expériences qui auront été acquises pendant le parcours d'exil, du travail qui a été fait à ce moment-là, ou des expériences de vie aussi qui ont été acquises à ce moment-là. Et on a fait tout un petit chapitre dans cette brochure sur lire un CV autrement, en montrant dans les trous ou dans certaines expériences, et ben ces expériences, elles sont pas certifiées par un certificat de travail en bonne et due forme tel que on le voit en Suisse, mais qui peuvent être certifiées autrement, qui sont du travail qui a été fait dans le pays d'origine, du travail qui a et qui n'a enfin travail dans l'entreprise familiale par exemple, et qui apporte énormément de compétences. Du travail qui a été fait durant leur parcours. Parfois, les parcours durent 1 an, 2 ans, 3 ans avant d'arriver en Suisse, lorsque c'est de l'exil forcé comme ça. Et puis, de montrer que pendant ces 3 ans, les personnes n'ont pas rien fait. Non. Et que, en plus, souvent, elles ont acquis des expériences de vie ce qu'on appelle les soft skills, qui sont très recherchées aujourd'hui par les
Sauf
recruteurs.
qui?
Ces soft skills, c'est des expériences de vie, genre la résistance au stress, la capacité à prendre des décisions rapidement, la capacité de négocier quand on est dans une situation. Je prends l'exemple un peu caricatural, mais de négocier avec des passeurs pour pouvoir traverser une frontière. On est dans une situation qui est compliqué. Alors l'idée, c'était pas de rendre héroïque ce parcours d'exil, parce qu'il est fondamentalement dur et difficile pour les personnes qui le vivent, mais de montrer que pendant cette période, ces personnes, elles ont acquis un certain nombre d'expériences qu'elles vont pouvoir aussi mettre à profit pendant leur séjour en Suisse ici.
Okay. Et comment l'avez-vous produite?
Alors, nous avons déjà engagé Elisa Turchi, qui est devenue membre de notre équipe pendant une période, pour travailler avec elle sur cette brochure. Il y a une riche documentation qui existe sur la question de l'accès à l'emploi des personnes issues de l'asile, sur les obstacles à l'emploi des personnes issues de l'asile. Et puis, par ailleurs, nous avons rencontré des personnes concernées, donc qui sont dans un processus de recherche d'emploi, qui ont rencontré des obstacles à l'emploi. Nous avons également contacté un certain nombre de personnes qui travaillent dans l'accompagnement des personnes réfugiées ou issues de l'asile dans leur recherche d'emploi, qui nous a permis un petit peu d'identifier les préjugés, les obstacles et comment les contrer et comment y répondre. Et puis après, ça a été un travail de rédaction, de mise en page. On a travaillé avec une graphiste, avec un dessinateur, parce que l'idée, c'était aussi d'apporter par le dessin une touche d'humour aussi, parce qu'on estime que c'est aussi important de passer par l'image, par le dessin. Voilà, c'est comme ça qu'on a fait.
C'est important le dessin. Oui. Et à qui s'adresse-t-elle?
Alors la brochure s'adresse d'abord aux employeurs et employeuses du secteur privé, du secteur public, parce que c'est vrai que on se rend compte à travers les données que souvent, c'est dans le secteur public que les personnes issues de l'asile ont le plus de peine à trouver un emploi. Mais aussi aux personnes qui accompagnent les réfugiés, les personnes issues de l'asile, et aux personnes concernées elles-mêmes, qui peuvent, avec cette brochure, arriver et dire « mais vous avez le droit de m'engager », etc. Donc ça peut être un outil qui peut permettre, par exemple, lors de la production des CV, d'écrire le CV aussi différemment de la part des personnes qui cherchent un emploi, de celles qui les accompagnent. Donc voilà, ça peut être aussi un outil qui peut aussi être utilisé par d'autres que simplement les recruteurs. Mais en priorité, l'outil vise les recruteurs. Il apporte aussi, donc on a, outre les questions et autour des préjugés, la brochure propose des informations très factuelles sur est-ce que j'ai le droit de l'engager et qui contacter si j'ai des doutes sur la procédure, sur tel permis, sur des questions juridiques, sociales, quelle personne, quelle association puis-je contacter si j'ai besoin d'une aide pour la reconnaissance des diplômes, etc. Il y a vraiment tout un outil qui est développé à la fois dans la brochure et sur le site asile.ch/emploi qui propose, et c'est un des objectifs à venir, par canton, des informations utiles pour les employeurs. C'est vraiment une démarche plutôt utile, le droit au travail selon le type de permis, etc., qui donne vraiment des éléments très très factuels et très basiques et à compléter. Voilà.
Ok. Et comment pouvons-nous la procurer?
Alors, on peut nous la commander via notre site internet asile.ch. Il y a la possibilité de commander la brochure. Elle est gratuite. Et après, si des institutions publiques veulent la commander, nous sommes une petite association avec des tout petits moyens. Nous avons eu le soutien de quelques fondations, du Bureau de l'intégration du canton de Genève, du Centre social protestant, de Caritas Genève et de l'EPER pour financer cette brochure et le travail qu'a représenté la rédaction, la réalisation de cette brochure. Mais nous avons besoin de financement pour la suite, en fait, de cette brochure que nous allons mener.
C'est pas facile.
Nous espérons. Donc voilà, pour des commandes un peu plus importantes, nous demanderons une contribution volontaire auprès des institutions qui la commandent si elles en souhaitent un nombre un peu plus important.
Oui, c'est nécessaire. Quel est le pourcentage de personnes en quête d'une protection en Suisse qui obtiennent un permis de travail?
Alors, ça dépend du permis. Les personnes qui ont un statut de réfugié en 2021 avaient un taux d'activité de environ 40%. Les personnes qui avaient un permis F, donc une admission provisoire, réfugié ou titulaire d'une admission provisoire, travaillaient à 47%, 48% toujours en 2021. Ça, c'est les chiffres du secrétariat d'État aux migrations. En revanche, les personnes qui sont avec un permis N, donc une demande d'asile, elles sont à 4-5% de taux d'activité. Alors, il faut savoir sur ces chiffres qu'il y a eu une évolution, que le taux d'emploi des personnes issues de l'asile il était nettement inférieur il y a 5-6 ans, que tout le travail qui a été mené pour favoriser l'intégration professionnelle des personnes issues de l'asile par les bureaux d'intégration des étrangers, par l'agenda intégration suisse, commence en fait à porter ses fruits. Il y a encore du progrès à faire parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont qualifiées, qui ont de l'expérience, qui ont le droit de travailler, qui ne parviennent pas à trouver un emploi à cause de ces différents préjugés qui existent encore chez les recruteurs.
Quel type de permis lui permet de chercher du travail en tant que demandeur d'asile?
Alors, les personnes, alors si on est dans la demande d'asile, si on a un permis N, si on est encore en procédure d'asile, normalement, une personne en procédure d'asile, elle a le droit de travailler après 3 mois de séjour en Suisse, c'est-à-dire dès qu'elle est attribuée à un canton, au bout de 3 mois, elle peut chercher un emploi normalement dans la plupart des secteurs, mais il y a une possibilité, selon le droit suisse, pour les cantons de restreindre ce droit au travail en donnant la priorité à la population indigène ou les personnes qui sont déjà résidentes en Suisse. Alors ça limite évidemment l'accès à l'emploi des personnes en procédure d'asile, donc qui n'ont pas encore obtenu un statut, que ce soit un statut N ou un statut B. Un statut F, pardon, l'admission provisoire ou le statut de réfugié. La question pour les personnes qui ont un statut de réfugié ou une admission provisoire, un permis F, il faut savoir que ces personnes ont un droit sans aucune restriction à trouver un travail, qu'elles peuvent travailler directement, que les démarches administratives ont été extrêmement simplifiées pour leur permettre de commencer à travailler tout de suite. Il suffit juste pour l'employeur d'annoncer sur une adresse qui a été mise en place par la Confédération, d'annoncer, c'est un formulaire d'annonce, j'emploie cette personne, la personne peut commencer à travailler immédiatement. Pour les personnes qui ont un permis N, donc en procédure d'asile, qui ont déposé leur demande d'asile et qui sont en attente d'une décision, ces personnes, le recruteur doit par contre faire une demande d'autorisation et auprès des autorités cantonales pour savoir si la personne a le droit de travailler. Il doit vérifier aussi les conditions salariales, etc. Si l'employeur respecte les conventions collectives de travail, des conditions de travail, c'est également ce qui s'applique au permis S, donc les nouveaux statuts qui ont été donnés aux ressortissants d'Ukraine qui viennent ici et à qui on voudrait qu'ils travaillent très rapidement. La seule restriction, eux aussi doivent ils doivent demander l'autorisation aux autorités cantonales, donc pour les réfugiés d'Ukraine et les personnes en quête d'asile. Les deux sont soumis à une demande d'autorisation. Enfin, ils doivent attendre la réponse du canton pour pouvoir permettre aux personnes de commencer à travailler. La question, elle est, que veulent les autorités? Est-ce qu'elles veulent encourager ou pas les personnes qui n'ont pas encore un statut à travailler? Ça, c'est vraiment une question qui se pose. C'est vrai que très clairement, le signe a été donné que pour l'instant, les personnes qui ont un permis N, donc en procédure d'asile, on ne veut pas qu'elles commencent vraiment à travailler. Leur permis est un obstacle. Ça s'est renforcé parce que là aussi, il y a 5-6 ans, il y avait environ 10% des personnes qui avaient un permis N qui travaillaient, ce qui est peu. Aujourd'hui, il y a la moitié de ce taux qui travaillent effectivement. parce qu'on a voulu privilégier ceux qui ont déjà un statut. La question va se poser, c'est qu'il y a actuellement, il y a beaucoup de personnes qui arrivent en Suisse et la procédure d'asile va de nouveau être modifiée parce qu'on va envoyer des gens dans les cantons avant qu'ils aient une décision. Mm-hmm. Les procédures vont se rallonger. On va de nouveau avoir un grand nombre de personnes avec un permis N qui vont être envoyées dans les cantons. Et en tout cas, pour nous, en tant qu'association de défense des personnes issues de l'asile, nous plaçons du côté des personnes réfugiées ou qui sont encore en procédure, nous pensons que la Suisse a tout intérêt à les faire travailler le plus vite possible et à leur permettre d'accéder à l'emploi le plus vite possible parce que, d'une part, la majorité va probablement rester en Suisse et que toute la période d'attente qui risque de se produire, il y a quelques années, avant la nouvelle loi sur l'asile et les procédures accélérées, les gens attendaient pendant 2-3 ans avant d'avoir une décision.
Oui. Donc,
on a accéléré les procédures, mais dans les chiffres, on voit qu'il y a quand même des personnes qui sont depuis 3-4 ans encore avec un permis N, donc qui attendent. Toutes ces personnes, elles perdent des qualifications pendant cette attente. Et ça, c'est une perte pour la Suisse parce que ces personnes vont se déqualifier. Et lorsqu'elles obtiendront un permis, elles auront moins de chances de travailler, donc d'être indépendantes de l'aide sociale. Et c'est un mauvais calcul, en fait. Et le fait d'encourager les personnes dès leur arrivée en Suisse à prendre des cours de français au niveau qui leur conviendrait, de favoriser des mesures d'intégration le plus rapidement possible pour qu'elles puissent très rapidement s'intégrer sur le marché de l'emploi en cas d'obtention d'un permis, c'est, à mon avis, si une majorité reste en Suisse, un bon calcul.
Oui, je pense. Quels sont les principaux obstacles auxquels se heurtent les demandeurs d'asile lorsqu'ils cherchent un emploi?
Alors, le principal obstacle, c'est lorsque les recruteurs font le tri, lorsqu'ils reçoivent des CV, donc les curriculum vitae. Le fait d'avoir un statut d'asile fait que les recruteurs vont se poser la question « Est-ce que j'ai le droit de l'engager ou pas ?» Donc là, on est dans ces obstacles du droit légal et administratif à un emploi. Et les recruteurs ont un gros préjugé qui est... Ce n'est pas un préjugé, c'est une compréhension de certains statuts. Par exemple, l'admission provisoire. Les recruteurs ont l'impression que c'est provisoire. Donc, ce que j'ai déjà évoqué tout à l'heure, c'est-à-dire que le premier obstacle, c'est est-ce que j'ai le droit d'engager la personne? Est-ce que la personne va rester durablement? Donc, la durabilité du séjour, est-ce qu'elle est réelle? Et on sait que plus de 85% des personnes avec une admission provisoire vont rester durablement en Suisse, ce qui est vraiment énorme, que les personnes qui ont déposé une demande d'asile, même les permis N, lorsqu'elles déposent une demande d'asile, lorsque la Suisse examine leurs besoins de protection et regarde leurs motifs d'asile, dans plus de 70% des cas, les personnes, on leur octroie au final soit une admission provisoire, soit un statut de réfugié. Alors que on a le sentiment que c'est qu'une minorité qui va rester en Suisse. Ça, c'est faux. Le terme « admission provisoire » du statut du permis F, il est complètement trompeur. Les personnes vont rester en Suisse. Le statut protège, il faut savoir ce que ça veut dire, l'admission provisoire. L'admission provisoire est octroyée aux personnes qui fuient les guerres, les conflits. Et si on regarde les nationalités les plus représentées parmi les admissions provisoires, ce sont les Afghans, ce sont les Syriens, ce sont les Érythréens, ce sont les Somaliens. Et c'est des personnes qui sont là parce que dans leur pays, il y a la guerre, il y a des conflits, il y a de la violence. Et ce terme de provisoire que les associations ont demandé à changer parce qu'il est perçu par les employeurs, et ça a été documenté, y compris par les autorités fédérales, que les employeurs estiment que le nom du statut admission provisoire, il est trompeur et idéalement qu'il devrait changer pour favoriser l'emploi des personnes issues de l'asile. Et c'est totalement idéologique, politiquement, de vouloir garder ce terme parce qu'il ne correspond pas à la réalité. Il faut savoir que les personnes qui fuient les guerres et les conflits en Europe obtiennent non pas une admission provisoire, mais une protection subsidiaire. Et ce terme protection subsidiaire est effectivement un terme positif qui dit ce que c'est que ce statut. C'est quelqu'un à qui on a offert une protection. Et l'admission provisoire est une protection qui est durable.
Et ces obstacles sont-ils plus difficiles à surmonter pour les femmes et pour les mères seules?
La représentation que la société a des femmes migrantes, entre guillemets, elle est assez caricaturale d'une femme qui reste au foyer, etc. Et c'est vrai que les femmes ont plus de peine, en tout cas dans les taux d'emploi, travaillent moins que les hommes. Mm-hmm. Après, lorsque nous, on a fait nos études, on a vu que en fait, les femmes sont qualifiées, que dans les interviews qu'on a eues auprès des femmes migrantes, beaucoup disaient que elles, c'est la première fois qu'elles se sont retrouvées à être à la maison quand elles sont arrivées en Suisse, et que le système les oblige finalement à rester à la maison, parce que pour pouvoir travailler, il faut avoir une solution de garde. Pour avoir une solution de garde, il faut travailler. Il y a peu de possibilités de garde d'enfants. C'est vrai que les femmes migrantes, si elles sont seules en Suisse, ben, elles n'ont pas la possibilité de demander à leur mère ou à leurs parents de s'occuper de leurs enfants. Donc, ça contraint les femmes à rester plus à la maison. Et ça rejoint finalement la problématique plus générale des femmes seules en Suisse, qui ont de la peine à trouver une solution de garde. Hein, et on est dans une société assez patriarcale, il ne faut pas le cacher. Donc, effectivement, pas mal de femmes qui arrivent ici sont assez interloquées du fait de voir, et c'est là où on est dans un préjugé renversé, c'est de se retrouver dans une société beaucoup plus patriarcale que celle qu'elles ont quittée, alors qu'on a une vision complètement inversée d'elles. Donc oui, les femmes ont plus de peine à trouver un emploi.
Quelles sont les conditions de base qu'un demandeur d'asile doit remplir afin de mener à bien le processus d'intégration?
Alors, on parle d'intégration poussée pour la personne lorsqu'on considère qu'elle est bien intégrée. Il y a évidemment la question de la langue, acquérir un niveau suffisant dans la langue du canton dans lequel elle réside. Et puis, la question de l'autonomie financière. Et parfois, on demande une indépendance financière poussée. Donc, il y a certaines fois, on a refusé à des personnes qui voudraient obtenir un meilleur statut. Par exemple, passer d'un permis F à un permis B. Pour ces personnes, on a estimé que le travail qu'elles avaient, qui était pas très bien rémunéré, n'était pas suffisant pour pouvoir justifier d'une intégration poussée. Mmh. Il y a la question de l'insertion des relations avec le reste de la population. Mais je pense que si on prend cette question d'intégration plus générale, c'est vrai que la capacité de la personne à être autonome financièrement, à bien parler la langue du pays d'accueil, sont les facteurs principaux qui mesurent l'intégration des personnes dans la société d'accueil.
Et quelle est la place de l'emploi dans ce processus?
Il est primordial dans le sens où pour arriver à un certain nombre de choses, notamment pour faire le regroupement familial, il est dépendant de l'indépendance financière des personnes et de leur intégration en Suisse. Or, on le voit et puis c'est documenté par les médecins, les psychologues, etc. Lorsque la personne a encore sa famille, il arrive que les gens se séparent pendant la fuite, qu'il y ait une partie de la famille qui reste dans le pays d'origine ou dans un pays voisin, dans un camp de réfugiés. Il y a beaucoup de personnes qui sont réfugiées au Soudan ou dans d'autres pays qui ont laissé leur famille dans ces camps et qui ont décidé, ils n'avaient pas les moyens de que tout le monde fasse le trajet, ou ils ne voulaient pas que toute la famille prenne le risque de faire ce trajet dangereux. Donc parfois, il y a un membre de la famille qui est ici. Et tant que la famille n'est pas réunie, la personne qui est ici, elle a de la peine, elle a toujours l'esprit ailleurs. Et c'est difficile d'apprendre une langue. Enfin, c'est un obstacle aussi, le fait de la disposition mentale liée à l'incertitude de son statut, de sa protection, et le fait d'avoir, par exemple, sa famille encore en danger, fait que la personne a de la peine à s'intégrer. Et on a beaucoup de témoignages de gens qui, une fois qu'ils ont réussi à faire venir le reste de leur famille, là, les choses se libèrent, leur esprit se libère pour pouvoir faire la place à cet apprentissage, de la langue, par exemple. Mais c'est vrai que c'est documenté, cette difficulté d'apprendre une langue lorsqu'on a encore la difficulté d'apprentissage, lorsqu'on a encore de l'esprit qui est angoissé par ce qui se passe dans le reste de notre famille.
Oui, c'est vrai. Et la dernière, quelles sont les propositions de vivre ensemble pour faciliter l'inclusion des personnes en procédure d'asile en Suisse?
Alors, je l'ai déjà dit, mais je pense que ça vaut la peine de le répéter. Pour moi, il faudrait idéalement que dès l'arrivée en Suisse, toutes les mesures d'intégration soient mises à disposition des personnes qui arrivent ici. Pas dire « Ah, on ne va pas donner des cours de français à telle personne parce qu'elle a encore son permis N ». Non, moi je pense qu'il faut pouvoir donner des cours de français à toutes les personnes lorsqu'elles sont dans les cantons romands, dès qu'elles arrivent, parce que d'une part, ça leur permet de comprendre ce qui se passe dans le pays d'accueil, ça leur permet de trouver un travail, ça leur permet d'être actives, de rester mobilisées et pas oisives, parce que comme on dit, l'oisiveté est la mère de tous les maux. L'oisiveté est néfaste pour elles, pour leur futur, et quelle que soit l'issue de la demande, le fait que la personne ait pu être mobilisée, ait pu se former, parce qu'il y a la formation aussi qu'il faut favoriser, le fait que ces personnes aient pu se former, aient pu acquérir quelque chose, même si elles doivent partir par la suite, suite à une décision négative, elles auront plus de ressources, elles seront plus mobilisées pour accepter leur éventuel départ, et cela va de toute façon être favorable, elles auront plus de moyens, et y compris en cas de renvoi, de pouvoir se débrouiller sur place et d'accepter finalement une décision. Pour moi, le fait de se dire on ne va pas leur donner de cours de français, on ne va pas leur permettre de se former et on va les laisser dans l'oisiveté, c'est un coût pour la société, c'est un coût économique aussi. Même si elles sont déboutées, elles vont être à l'aide sociale. Si elles mettent du temps à trouver un emploi, elles vont avoir un emploi moins qualifié, donc elles vont avoir moins de revenus, elles vont moins pouvoir contribuer, y compris par leur pouvoir d'achat, à la société. Donc c'est quand même un calcul complètement perdant, à mon avis, économiquement et au niveau de la société.
Et merci beaucoup pour votre réponse et pour votre collaboration, Sophie.
Merci à vous.